Le temps s'écoulait avec une incalculable rapidité, et puis, tout à coup, revenait l'époque où il fallait inviter le pasteur docteur Jesperson. C'était alors un repas pénible et qui semblait aux deux parties interminable. Habitué à la société très pieuse qui, par égard pour lui, se dissolvait entièrement, le pasteur n'était pas chez nous dans son élément. Il était en quelque sorte jeté sur la terre ferme et manquait d'air. La respiration au moyen des branchies qu'il avait développées en lui s'opérait difficilement. Des bulles se formaient, et tout cela n'allait pas sans danger. De sujets de conversation, je dois dire, pour être exact, qu'il n'y en avait pas du tout. On soldait des restes à des prix invraisemblables. C'était une liquidation de tous les stocks. Docteur Jesperson devait se contenter d'être chez nous une sorte d'homme privé, c'est-à-dire précisément ce qu'il n'avait jamais été. Il était, aussi haut qu'on pouvait remonter dans le passé, spécialiste du rayon de l'âme. L'âme était pour lui une institution publique qu'il représentait, et il réussissait à n'être jamais hors de service commandé, même pas dans ses rapports avec sa femme. Sa modeste et fidèle Rebecca, sanctifiée par l'enfantement, comme l'avatar s'exprime dans un autre cas. En ce qui concerne mon père, son attitude à l'égard de Dieu était d'une parfaite correction et d'une irréprochable courtoisie. À l'église, il me semblait parfois, à le voir debout, en attente ou légèrement penché, qu'il se trouvait justement être capitaine des chasses au service de Dieu. Quant à maman, il lui semblait presque offensant que quelqu'un pût entretenir avec Dieu des rapports de politesse. Si le hasard lui avait donné une religion aux rites expressifs et compliqués, dans quelle félicité se serait-elle, pendant des heures entières, agenouillée ou jetée par terre? Ou aurait-elle, de façon large et circonstanciée, fait le signe de la croix en se touchant la poitrine et les épaules? Elle ne m'enseignait pas vraiment à prier, mais c'était pour elle un apaisement de savoir que je m'agenouillais volontiers, que je joignais les mains, tantôt en entrecroisant les doigts, tantôt en les appuyant les uns contre les autres, selon que je le trouvais plus ou moins expressif. Assez abandonné à moi-même, je traversais de bonne heure une série de phases que je ne rapportais que beaucoup plus tard à Dieu, dans un moment de désespoir, et cela avec une telle violence qu'il se forma et se défit presque au même instant. Il est évident que je dus tout recommencer depuis le début. Et pour ce début, je croyais parfois avoir besoin de maman, quoiqu'il valût naturellement mieux que je le vécusse seule. Et c'est vrai qu'elle était alors déjà morte depuis longtemps. À l'égard du docteur Jesperson, maman pouvait montrer une vivacité qui touchait presque à l'exubérance. Elle engageait avec lui une conversation qu'il prenait au sérieux. Puis, dès qu'il s'écoutait parler, elle croyait avoir assez fait et l'oubliait aussi complètement que s'il était déjà reparti. « Comment donc peut-il, disait-elle parfois de lui, aller et venir et entrer chez les gens tandis qu'il meurt ?» Il vint aussi chez elle en cette occasion, mais elle ne l'a sûrement plus vu. Ses sens moururent l'un après l'autre, en premier lieu la vue. C'était en automne, nous devions partir pour la ville, mais elle tomba malade, ou plutôt, elle commença tout de suite à mourir lentement et tristement de toute sa surface. Les médecins vinrent, et un certain jour, ils furent là tous à la fois et régnèrent sur la maison. Pendant quelques heures, il semblait qu'elle n'appartînt plus qu'au professeur et à ses assistants, et qu'eux seuls eussent des ordres à donner. Mais aussitôt après, ils se désintéressèrent de tout, et ne vinrent plus que par pure politesse, un à un, pour accepter un cigare ou un verre de Porto. Et pendant ce temps, maman mourait. On n'attendait plus que l'unique frère de maman, le comte Christian Braheux, qui, on se le rappelle, avait été pendant quelque temps au service de la Turquie, où il avait reçu, comme on disait toujours, de grandes distinctions. Il vint un matin, accompagné d'un domestique étranger, et je fus surpris de voir qu'il était plus grand que mon père et semblait le plus âgé. Les deux hommes échangèrent aussitôt quelques paroles qui avaient, je suppose, trait à maman. Il y eut une pause, puis mon père dit « Elle est très défigurée ». Je ne compris pas cette expression, mais je frissonnais en l'entendant. J'avais l'impression que mon père avait dû se surmonter pour la prononcer, mais c'était sans doute surtout son orgueil qui souffrait de cet aveu. Plusieurs années après, j'entendis de nouveau parler du comte Christian. Cela se passait à Urne Kloster, et c'était Mathilde Brahe qui aimait à parler de lui. Je suis cependant certain qu'elle avait arrangé les différents épisodes à sa manière, car la vie de mon oncle, dont l'opinion publique et même la famille n'étaient informées que par des racontars qu'il dédaignait de confondre, ouvrait un champ vraiment infini aux interprétations. Urne Kloster est maintenant sa propriété, mais personne ne sait s'il l'habite. Peut-être voyage-t-il encore toujours, comme c'était son habitude. Peut-être la nouvelle de sa mort, écrite de la main du domestique étranger, en mauvais anglais ou en quelque langue inconnue, quitte-t-elle en ce moment je ne sais quel continent lointain. Peut-être aussi cet homme ne donnera-t-il même pas signe de vie, s'il doit quelque jour survivre seul à son maître. Peut-être tous les deux ont-ils disparu depuis longtemps et sont encore inscrits sur la liste des passagers d'un bateau perdu en mer sous des noms qui n'étaient pas les leurs. À Urne Kloster, lorsqu'une voiture entrait dans la cour, je m'attendais toujours à le voir arriver et mon cœur en battait bizarrement. Mathilde Brahe assurait qu'il venait ainsi, que telle était sa singularité d'être là subitement lorsqu'on croyait le moins que ce fût possible. Il ne vint jamais, mais mon imagination était occupée de lui des semaines durant. J'avais le sentiment que nous nous devions d'entretenir des rapports et j'aurais beaucoup aimé à savoir sur lui des choses vraies. Lorsque peu après mon intérêt changea d'objet et se porta à la suite de certains événements tout entier sur Christine Brahe, je ne m'efforçais pas, chose singulière, de connaître les circonstances de sa vie. En revanche, la pensée m'inquiétait de savoir si son portrait existait dans la galerie, et le désir d'établir cela augmentait de façon si exclusive et tourmenteuse que pendant plusieurs nuits de suite, je ne dormis pas, jusqu'à ce que vint, très inopinément, celle où, un peu malgré moi, je me levais, et montait en portant ma lumière qui semblait avoir peur. Pour ma part, je ne pensais pas à la peur, je ne pensais pas du tout, j'allais. Les hautes portes s'effaçaient en jouant derrière, devant moi, au-dessus de moi. Les chambres que je traversais se tenaient coites, et enfin, je compris à la profondeur qui me baignait que j'étais entrée dans la galerie. Je sentis à ma droite les fenêtres avec leur nuit et à gauche devaient se trouver les tableaux. Je levai mon lumignon aussi haut que je le pus. Oui, les tableaux étaient là. D'abord, je ne voulus regarder que les femmes, mais bientôt j'en reconnus un et un autre encore dont le pendant était à Ulsgaard. Et lorsque je les éclairais d'en bas, ils remuaient et voulaient venir à la lumière. Et il me semblait cruel de ne pas au moins leur en laisser le temps. Il y avait là toujours de nouveau Christian IV, avec sa belle cadenette tressée à côté de sa joue large, doucement bombée. Il y avait sans doute ces femmes, dont je ne connaissais que Christine Munk. Et subitement, Madame Hélène Marsvin me regardait, l'air soupçonneux dans ses vêtements de veuve, avec le même rang de perles sur le crêpe du chapeau haut. Il y avait là les enfants du roi Christian, des enfants toujours plus frais de femmes toujours nouvelles, l'incomparable Éléonore, sur une haquenée blanche, dans sa plus belle époque, avant son temps d'épreuve. Les Gildenlöwe, Hans Ulrich, dont les femmes espagnoles disaient qu'il se teignait le visage tant il était plein de sang, et Ulrich Christian, que l'on ne pouvait plus oublier. Et presque tous les Ulfeld. Et celui-ci, avec son œil peint en noir, pouvait bien être Henrik Holck, qui fut à 38 ans comte de l'Empire et Feld-Maréchal. Et c'était arrivé ainsi. Il rêva, tandis qu'il allait chez la demoiselle Ileborg Krafs, qu'on lui donnait, au lieu de sa fiancée, une épée nue. Et il prit ce songe à cœur, et rebroussa chemin, et commença sa vie brève et hardie, dont la peste fut le terme. Je les connaissais tous, et nous avions aussi à Ulsgaard les délégués du congrès de Nimègue, qui se ressemblaient un peu, parce qu'ils avaient été peints tous à la fois, chacun avec la même petite moustache coupée, semblable à un sourcil, sur une bouche sensuelle qui semblait presque jeter un regard. Il va de soi que je reconnus le duc Ulrich et Otto Brahe et Klaus Daa et Stern Rosenspar, le dernier de sa race. Car d'eux tous, j'avais vu des portraits dans la salle d'Ulsgaard, où j'avais trouvé dans de vieux albums des gravures en taille douce qui les représentaient. Mais il y en avait ensuite beaucoup d'autres que je n'avais jamais vus. Peu de femmes, mais il y avait là des enfants. Mon bras était depuis longtemps fatigué et tremblait, mais je levais cependant toujours de nouveau la lumière pour voir les enfants. Je les comprenais, ces petites filles qui portaient un oiseau sur la main et l'oubliaient. Parfois, un petit chien était assis près d'elle, une pelote était là, et sur la table voisine, il y avait des fruits et des fleurs. Et derrière elle, à la colonne, pendait, petit et tout provisoire, le blason des grubes, des billes ou des Rosenkranz. On avait amassé autour d'elle une foule de choses, comme si autant de torts qu'on avait eus devaient être réparés. Mais elles étaient debout, simplement, dans leurs vêtements, et attendaient. On voyait qu'elles attendaient. Et cela me faisait de nouveau songer aux femmes et à Christine Brahe, et je me demandais si je la reconnaîtrais. Je voulus vite courir jusqu'au fond de la galerie et revenir de là en cherchant, lorsque subitement je me heurtais à quelque chose. Je me retournai si brusquement que le petit Eric se rejeta en arrière et chuchota. « Prends garde à ta lumière !»« Tu es là ?» dit Jord Allen, et je n'étais pas très sûre que ce fût bon ou très mauvais signe. Ma lumière vacillait, et je ne distinguais pas bien l'expression de son visage. C'était peut-être plutôt mauvais signe qu'il fût là. Mais il s'approcha de moi et me dit « Son portrait n'est pas là, nous le cherchons encore toujours en haut. » De sa voix basse et de son œil mobile, il désigna je ne sais quoi vers en haut. Et je compris qu'il voulait parler du grenier, mais j'eus tout à coup une pensée singulière. « Nous ? » demandai-je. « Est-elle donc en haut ?»« Oui, » fit-il en hochant la tête et resta debout tout à côté de moi. « Elle aide à chercher ?»« Oui, nous cherchons. » »« On a donc enlevé son portrait ?»« Oui, figure-toi, » dit-il, indigné. Mais je ne comprenais pas trop ce qu'elle voulait en faire. « Elle veut se voir, » souffla-t-il à mes oreilles. « Ah oui, » fis-je, comme si je comprenais. Alors il éteignit ma lumière, je le vis s'étirer en avant dans la clarté, les sourcils remontés. Puis il fit sombre, malgré moi je reculais d'un pas. « Que fais-tu donc ? » criai-je à mi-voix, et j'avais la gorge desséchée. Il sauta vers moi, se pendit à mon bras et eut un petit rire étouffé. « Qu'y a-t-il donc ? » le rudoyai-je, et je voulus me dégager, mais il tint bon. Je ne pus empêcher qu'il étendît son bras autour de ma nuque. « Dois-je te le dire ? » souffla-t-il entre les dents, et un peu de salive m'aspergea l'oreille. « Oui, oui, vite !» Je ne savais trop ce que je disais. Il m'étreignit en s'étirant. « Je lui ai porté une glace, » dit-il, et gloussa de nouveau son petit rire. « Une glace ? Mais oui, puisque son portrait n'est pas là. »« Non, non, » fis-je. Il me tira tout à coup un peu plus près de la fenêtre et me pinça l'avant-bras si fort que je poussai un cri. « Elle n'est pas dedans, » me souffla-t-il à l'oreille. Je le repoussai involontairement. Quelque chose craqua en lui. Il me sembla que je l'avais brisé. « Va, va, à présent j'en devais rire moi-même. Pas dedans ? Comment cela, pas dedans ?»« Tu es bête, » répliqua-t-il, et cessa de chuchoter. Sa voix avait changé de registre, comme s'il abordait une pièce nouvelle, encore inédite. Ou bien on est dedans, se rina-t-il avec une gravité soudaine et un accent de grande personne, et par conséquent on n'est pas ici. Ou bien on est ici, et on ne peut pas être dedans. Bien entendu, répondis-je vite, sans réfléchir. J'avais peur qu'il ne pût s'en aller et me laisser seul. J'étendis même la main en avant pour le toucher. « Veux-tu que nous soyons amis ?» lui proposai-je. Il se fit prier. « Ça m'est bien égal, » répondit-il, effronté. Je tentais d'inaugurer notre amitié, mais je n'osais pas le serrer dans mes bras. « Mon cher Éric, » articulai-je, et je l'effleurai à peine n'importe où. Je me sentis tout à coup très las. Je me retournai. Je ne comprenais plus comment j'étais venue jusqu'ici et comment je l'avais pu sans prendre peur. Je ne savais pas trop où étaient les fenêtres et où les tableaux, et lorsque nous repartîmes, il dut me conduire. « Ils ne te feront rien, » assurait-il généreusement, et riait de nouveau. « Mon cher, cher Éric, peut-être as-tu quand même été mon seul ami, car je n'en ai jamais eu. » Quel dommage que tu aies fait si peu de cas de l'amitié. J'aurais voulu te raconter bien des choses. Peut-être nous serions-nous accordés. On ne peut pas savoir. Je me rappelle qu'on faisait alors ton portrait. Grand-père avait fait venir quelqu'un qui te peignait, tous les matins, pendant une heure. Je ne me rappelle plus la tête de ce peintre. J'ai oublié son nom, bien que Mathilde Braheux le répétât à tout moment. T'as-t-il vu comme je te vois? Tu portais un costume en velours de couleur héliotrope. Mathilde Braheux adorait ce costume. Mais qu'importe cela, à présent? Je voudrais seulement savoir s'il t'a vu. Supposons qu'il ait été un véritable peintre. Supposons qu'il n'ait pas pensé que tu pourrais mourir avant qu'il eût terminé. Qu'il n'ait pas du tout envisagé son travail sous un angle sentimental. Qu'il ait simplement travaillé. Que la dissemblance de tes deux yeux bruns l'ait ravi, qu'il n'ait pas eu un seul instant honte de ton œil immobile, qu'il ait eu la délicatesse de ne rien ajouter sur la table, près de ta main, qui peut-être s'appuyait légèrement. Supposons tout le reste encore qui est nécessaire, et admettons-le. Il y aurait alors un portrait, ton portrait dans la galerie d'Urne Kloster, un portrait qui serait le dernier. Et lorsqu'on est déjà sur le point de partir, et que l'on a tout vu, il y a encore là un enfant. Un instant, qui est cela? Un Braheux, vois, de sable aux pales d'argent, et les plumes de paon au cimier, et vois aussi le nom, Éric Braheux. N'est-ce pas un Éric Braheux qui a été condamné à mort? Parbleu, oui, bien entendu, qui ignore cela? Mais il ne peut sans doute s'agir de lui. Cet enfant est mort tout jeune, peu importe quand, ne le vois-tu pas? Lorsqu'il y avait des visites et qu'on appelait Éric, Mademoiselle Mathilde Braheux assurait chaque fois qu'il ressemblait singulièrement à la vieille comtesse Braheux, ma grand-mère. On dit qu'elle fut une très grande dame. Je ne l'ai pas connue. En revanche, je me rappelle fort bien la mère de mon père, la véritable maîtresse d'Ulsgaard. Elle avait sans doute toujours gardé sa place, bien qu'elle en voulût à maman d'être entrée dans la maison comme l'épouse du capitaine des chasses. Depuis lors, elle faisait semblant de s'effacer de plus en plus et renvoyait pour chaque détail les domestiques à maman. Mais lorsqu'il s'agissait d'affaires importantes, elle tranchait et disposait tranquillement, sans rendre compte à personne de ses décisions. Je crois bien d'ailleurs que maman ne désirait pas qu'il en fût autrement. Elle était si peu faite pour surveiller une grande maisonnée. Elle était incapable de distinguer les choses qui avaient de l'importance de celles qui n'en avaient pas. À l'instant où on lui parlait d'une chose, celle-ci devenait tout pour maman, et elle en oubliait le reste, alors que cependant il ne cessait pas d'exister. Elle ne se plaignait jamais de sa belle-mère, et à qui s'en serait-elle plainte? Père était un fils très respectueux et grand-père n'avait que peu à dire. Madame Margaret Bridge aussi loin qu'il m'en souvint, avait toujours été une vieille femme inabordable et très haute de taille. Je ne peux admettre qu'elle n'ait été beaucoup plus âgée que le chambellan. Elle vivait sa vie au milieu de nous, sans prendre d'égard pour personne. Elle n'avait besoin de personne et avait toujours une sorte de dame de compagnie, une certaine comtesse Ox, déjà vieille, et qu'elle avait, par je ne sais quel bienfait, infiniment obligée. Ce devait être d'ailleurs une exception remarquable dans sa vie, car les bienfaits d'habitude n'entraient pas dans sa manière. Elle n'aimait pas les enfants, et les animaux n'osaient pas l'approcher. Je ne sais si elle aimait quelque autre chose. On racontait qu'elle avait aimé comme jeune fille le beau Félix Lichnowsky, qui mourut à Francfort en des circonstances si cruelles. Et en effet, après sa mort, on trouva un portrait du prince, qui, si je ne me trompe, a été rendu à la famille. Peut-être, songeais-je à présent, oubliait-elle dans cette vie retirée et rustique qu'avait fini par devenir de plus en plus la vie à Ulsgaard, un autre genre d'existence plus brillant et qui lui eût naturellement convenu. Il est difficile de dire si elle regrettait ce dernier. Peut-être le méprisait-elle parce qu'il n'était pas venu, parce que cette vie-là avait manqué l'occasion d'être vécue avec talent et habileté. Madame Margaret Bridge avait refoulé tout cela au fond d'elle-même et l'avait recouvert de plusieurs couches, dures, à l'éclat un peu métallique et dont le contact éveillait toujours une sensation de fraîcheur et de nouveauté. Parfois, cependant, sa naïve impatience la trahissait, lorsque, par exemple, on ne lui prêtait pas une attention suffisante. De mon temps, il arrivait alors subitement à table qu'elle avala de travers, de quelque manière clairement visible et compliquée, qui l'assurait de l'intérêt attentif de tous, et pour un instant du moins, la faisait paraître aussi sensationnelle et captivante qu'elle eût voulu l'être en grand. Cependant, je crois que mon père était le seul qui prit au sérieux ces incidents trop fréquents. Il la regardait, poliment penchée en avant. On lisait sur son visage qu'il lui offrait en quelque sorte, en pensée et sans réserve, son propre gosier au fonctionnement normal. Bien entendu, le chambellan avait lui aussi cessé de manger. Il prenait une petite gorgée de vin et s'abstenait de toute observation. Une seule fois, il avait soutenu à table son opinion à l'encontre de celle de sa femme. Il y avait longtemps de cela, mais on répétait quand même encore toujours cette histoire, malicieusement et en secret. Il y avait presque partout quelqu'un qui ne l'avait pas encore entendue. On prétendait que, à une certaine époque, la femme du chambellan pouvait s'emporter à cause d'une simple tache de vin sur la nappe, et qu'une telle tache, à quelque occasion qu'on s'en fût rendu coupable, ne lui échappait jamais et était aussitôt en quelque sorte révélée à tous par le blâme très violent qu'elle déversait sur son auteur. Pareille chose était arrivée un jour qu'on avait pour hôte plusieurs personnages de marque. Quelques innocentes tâches, dont elle exagéra l'importance, servirent de prétexte à des accusations sarcastiques. Et grand-père avait beau s'efforcer de la rappeler à l'ordre par de petits signes et des interruptions facétieuses, elle poursuivait avec entêtement ses reproches qu'elle dut, il est vrai, l'instant d'après, interrompre au milieu de sa phrase. Il arriva, en effet, une chose inouïe et tout à fait incompréhensible. Le chambellan s'était fait donner le vin rouge qui faisait justement le tour de la table, et au milieu de l'attention générale, il était en train de remplir son verre lui-même. Sauf que, chose étrange, il ne cessa pas de verser lorsqu'il l'eut depuis longtemps rempli, et dans le silence croissant, continuait à verser lentement et prudemment, jusqu'à ce que maman, qui ne pouvait jamais se contenir, éclata de rire et classa ainsi toute l'affaire du côté plaisanterie. Car tous aussitôt, soulagés, firent chorus, et le chambellan leva les yeux et tendit la bouteille au domestique. Cependant, une autre manie s'empara de grand-mère. Elle ne pouvait plus supporter que quelqu'un tombât malade dans la maison. Un jour que la cuisinière s'était blessée et qu'elle la vit par hasard avec la main pansée, elle prétendit sentir l'iodoforme dans toute la maison, et on eut du mal à la persuader qu'on ne pouvait pas pour cette seule raison congédier cette femme. Elle ne voulait pas que quelque chose lui rappelât qu'elle-même pouvait tomber malade. Quelqu'un avait-il l'imprudence de manifester devant elle n'importe quel petit malaise, que ce n'était ni plus ni moins qu'une offense personnelle dont elle vous gardait longtemps rancune. Cet automne donc, où maman mourut, la femme du chambellan s'enferma tout à fait dans son appartement avec Sophie Ox et rompit toute relation avec nous. Son fils même n'était plus reçu. Il est vrai que cette mort était venue très mal à propos. Les chambres étaient froides, les poêles fumaient, les souris s'étaient introduites dans la maison. Nulle part on n'était à l'abri d'elles, mais il n'y avait pas que cela. Madame Marguerite Bridge était indignée que maman mourût, qu'il y eût là, à l'ordre du jour, un sujet dont elle refusait de parler, que la jeune femme eût usurpé sa préséance à elle qui ne comptait mourir que dans un délai tout à fait indéterminé. Car elle pensait souvent qu'elle devait mourir, mais elle ne voulait pas être pressée. Certes, elle mourrait quand il lui plairait, et ensuite, tous pourraient mourir à leur tour, sans gêne, les uns après les autres, s'ils avaient tant de hâte. Mais elle ne nous pardonna jamais complètement la mort de maman. Elle vieillit d'ailleurs rapidement durant l'hiver qui suivit. En marchant, elle était toujours encore grande, mais dans le fauteuil elle s'affaissait, et son ouïe devenait dure. On pouvait s'asseoir près d'elle et la regarder, avec de grands yeux, durant des heures, elle ne le sentait pas. Elle était enfoncée quelque part en elle-même. Elle ne revenait que rarement, et pour de brefs instants, dans ses sens qui étaient vides, qu'elle n'habitait plus. Alors elle disait quelques mots à la comtesse, qui lui redressait sa mantille, et de ses grandes mains fraîchement lavées, amenait sa robe sous elle, comme si l'on avait répandu de l'eau, ou comme si nous n'étions pas très propres. Elle mourut aux approches du printemps, en ville, une nuit. Sophie Ox, dont la porte était ouverte, n'avait rien entendu. Lorsqu'on trouva Madame Margaret Bridge au matin, elle était froide comme du verre. Aussitôt après commença la grande et terrible maladie du chambellan. C'était comme s'il avait attendu la fin de sa femme pour mourir sans égard, avec autant de violence qu'il était nécessaire.